Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 19 février 2022, il est 13h à Melbourne, 3h du matin à Paris. Bienvenue dans votre édition française. Au micro Marianne Murat, je suis très heureuse de passer cette heure à vos côtés. Au programme aujourd'hui, les dernières actualités, puis comme chaque samedi, la rétro sonore. On remonte aujourd'hui en 2008, Fidel Castro donne les rênes de Cuba à son frère Raoul. En deuxième partie d'émission, on va parler culture avec de l'art puis du cinéma. Tout ça c'est maintenant, c'est pendant une heure, on commence avec le journal. Les grands titres de l'actualité de ce samedi 19 février, alors que les touristes font leur grand retour en Australie après-demain, le Western Australia annonce rouvrir ses frontières internes dès le 3 mars pour les triples vaccinés. Pas de désescalade dans le dossier ukraino-russe, Joe Biden se dit convaincu d'une invasion imminente. Bamako et Paris à couteau tiré, Emmanuel Macron veut mettre un terme à l'opération Barkhane sous 6 mois. Le gouvernement malien dénonce une violation de leurs accords et lui demande de retirer ses troupes immédiatement. Un avant-goût de retour à la vie normale, il semblerait que l'Australie ait décidé de vivre avec le coronavirus finalement. On vous le disait dans les précédentes émissions, le pays rouvre ses frontières au tourisme dès lundi. Eh bien la dernière nouvelle en date, c'est celle du Western Australia. L'état de l'Ouest, le plus réfractaire à alléger ses restrictions, a finalement décidé de rouvrir ses frontières internes sans obligation de quarantaine dès le 3 mars, à une condition toutefois, avoir reçu ses 3 doses de vaccin. Le premier ministre de l'état, Mark McGowan, a admis ne pas voir d'impact positif de la fermeture stricte du Western Australia sur le nombre de cas positifs. Toutefois, il persiste et signe, l'ouverture des frontières initialement prévues pour le 5 février n'était pas une bonne solution.
It was a tough call, one that caused inconvenience and disruption to those who had made plans around that date. As I said on the night, I'm sorry that we had to do that, but it was the right call for our state. It was a decision that saved scores, if not hundreds of lives.
Dans les autres États, le nombre de cas positifs, d'hospitalisations et de décès sont tous en baisse. Conséquence, certaines restrictions sont déjà levées. Dans le Victoria et le New South Wales, les habitants ont pu retourner en boîte de nuit sans restriction de densité. Les scans des QR codes ne sont plus obligatoires dans certains lieux, comme les magasins ou encore les supermarchés. Alors, si on fait un point rapide sur le dernier décompte des chiffres du Covid-19, 6280 nouveaux cas dans le Victoria, 20 personnes sont décédées, 54% de la population a reçu son booster, donc sa troisième dose de vaccins. Dans le New South Wales, 7615 personnes ont été infectées en une journée. L'État enregistre 12 décès. Il reste encore plus de 1000 personnes à l'hôpital. Une personne est décédée en Tasmanie. 585 sont tombées malades, selon le dernier décompte. 355 nouveaux cas dans le territoire de la capitale australienne. 40 personnes y sont encore hospitalisées. Et dans le Queensland, 10 personnes sont décédées. L'État enregistre près de 5000 nouveaux cas. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, surtout à l'oral. Si vous voulez suivre plus en détail les annonces concernant les épidémie de coronavirus et les décomptes officiels, sachez que vous pouvez vous rendre sur notre page internet SBS French. Un article mis à jour est publié tous les mardis et les jeudis dans l'après-midi. À l'international, la tension ne redescend pas à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Malgré l'annonce récente par Moscou du retrait de ses troupes, le Donbass a été le théâtre il y a seulement quelques heures de nouveaux bombardements. Dans la région séparatiste du Louhansk, un gazoduc a pris feu à la suite d'une explosion. On ne connaît pas exactement encore les raisons de cette explosion, mais pour les Américains, les Russes mettent en œuvre un scénario de provocation en vue de justifier une invasion imminente. Joe Biden, qui s'est entretenu en visioconférence avec les dirigeants de plusieurs pays européens, ainsi qu'avec le chef de l'OTAN, a pris la parole peu après la réunion. Pour lui, il est évident que Vladimir Poutine a déjà pris sa décision de déclarer la guerre.
Nous avons des raisons de croire que les forces russes prévoient et ont l'intention d'attaquer l'Ukraine dans la semaine qui vient, dans les tout prochains jours. Nous pensons qu'ils vont viser la capitale de l'Ukraine, Kiev, une ville de 2 800 000 personnes innocentes. Nous dénonçons les plans russes bruyamment et sans arrêt, pas parce que nous voulons un conflit, mais parce que nous faisons tout notre possible pour retirer aux Russes tout prétexte pour justifier une invasion de l'Ukraine et pour les empêcher d'agir. Ne vous y trompez pas, si la Russie applique son plan, elle sera responsable d'une guerre catastrophique et inutile qu'elle aura choisie. Les États-Unis et leurs alliés sont prêts à défendre chaque centimètre de territoire de l'OTAN et également notre sécurité collective contre toute menace. Nous n'enverrons pas de troupes combattre en Ukraine, mais nous continuerons à soutenir le peuple ukrainien.
Joe Biden qui peut compter sur un soutien indéfectible, celui de notre Premier ministre. Scott Morrison a dit que les menaces contre l'Ukraine étaient inacceptables. Il est lui aussi persuadé qu'une attaque russe est imminente. L'Australie est prête à se tenir aux côtés des États-Unis et à dénoncer les tactiques d'intimidation de Moscou, c'est ce qu'il a déclaré juste après avoir dit ça.
There hasn't been any withdrawal of Russian troops from the borders. The pretense is being sought for an invasion. There is no pretense for an invasion into Ukraine. There is no justification for it.
Et dans tout ce conflit, on entend surtout les dirigeants russes, ukrainiens, occidentaux, Bruxelles, l'OTAN également. Mais comment réagissent les populations sur place? Il semble que les Ukrainiens se préparent au pire tout en gardant leur sang-froid. C'est en tout cas ce qu'ont pu constater les envoyés spéciaux de Radio France Internationale dans la ville de Slavoutych.
Érigée au milieu d'une forêt, Slavoutych, la dernière ville construite du temps de l'Union soviétique, se retrouve aujourd'hui en première ligne. La frontière avec la Biélorussie n'est qu'à 12 km. Timur Gismatulin est le responsable du centre de la jeunesse de Slavoutych.
Le risque d'une agression, il a toujours existé. On a toujours vécu avec ce danger tout proche. C'est juste qu'avant, on y faisait moins attention et que maintenant, tout le monde s'y intéresse.
Slavoutych se prépare à toute éventualité. L'urgence sera de fournir le strict nécessaire de l'eau et de l'électricité à la population. Mais pour le maire, Yuri Fomichev, le plus délicat à gérer, ce ne sont pas les questions logistiques.
Le plus délicat, c'est d'éviter de tomber dans l'hystérie collective, comme le voudrait la partie adverse, en massant des troupes le long de nos frontières. La plupart des habitants sont arrivés de Pripyat, près de la centrale nucléaire. Ils ont été évacués après l'accident et aujourd'hui, ils s'inquiètent à nouveau de savoir s'ils vont être évacués. D'un côté, nous devons nous préparer le mieux possible, mais nous ne devons pas faire en sorte que la militarisation devienne la norme dans nos vies.
Les autorités élaborent aussi un plan alternatif pour continuer à acheminer les quelques 2000 travailleurs de la centrale, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, le train entre Slavoutych et Tchernobyl passe par le territoire biélorusse.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation de crise entre l'Ukraine et la Russie. On prend la direction de l'Afghanistan à présent et des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre la décision des États-Unis de geler 3,5 milliards de dollars d'argent afghan. Le but est de les distribuer aux familles des victimes du 11 septembre. Les manifestants ont crié leur colère et leur frustration, accusant les États-Unis de voler cet argent et rappelant à Joe Biden que la plupart d'entre eux n'ont rien à voir avec les attentats d'Al-Qaïda, parmi eux Ghulam Seddik, écoutez son témoignage.
This money, which is frozen by the American government and that they want to spend it on 9/11 victims, belongs to the Afghan people. It does not belong to any group or government. We request that Mr. Joe Biden gives the money back to Afghans. He should not count this as his own money.
On vous le disait en titre, après l'annonce du retrait de la force Barkhane du Mali d'ici 6 mois, la junte au pouvoir à Bamako demande à la France de retirer ses soldats sans délai. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, installé par les militaires, a qualifié la décision française de violation flagrante des accords entre les deux pays.
Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le gouvernement exhorte nos vaillantes forces armées et de sécurité nationale à plus d'engagement, de vigilance et de détermination dans l'accomplissement de leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de sécurisation des personnes et des biens. Attaché aux valeurs de dignité, le gouvernement reconnaît les sacrifices consentis s'incline devant la mémoire des victimes de l'insécurité, civiles et militaires, maliennes et étrangères. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali, dans le respect de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple malien. Le gouvernement du Mali appelle la population à rester sereine et vigilante et prend l'engagement que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité.
Emmanuel Macron a depuis réagi et a rejeté les exigences de la junte malienne. On écoute le chef de l'État français.
La France a annoncé hier la réarticulation de notre dispositif. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la junte en responsabilité au Mali, elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde. Je pense que tout ça doit se faire dans le respect, car depuis maintenant 9 ans, la France aide le Mali, équipe, forme, accompagne les armées maliennes, comme les armées de la région, que notre dispositif se réarticulera à quelques kilomètres de la frontière au Niger et que dans l'avenir, nous aurons toujours vocation à trouver les coopérations pour lutter contre le terrorisme. Et je souhaiterais que nul n'oublie dans la région que la priorité doit rester la lutte contre le terrorisme.
Voilà pour le chef de l'État, Emmanuel Macron. Toujours en politique française, c'est comme un air de rattrapage pour la candidate de la droite à la présidentielle. Après un meeting au Zénith de Paris jugé raté par beaucoup, Valérie Pécresse s'est illustrée au Canet, dans les Alpes-Maritimes, en tentant une nouvelle formule avec une mise en scène plus classique et sans notes cette fois. Correspondance à Cannes de Lucille Gimbert pour RFI.
Meeting raté, sondage en baisse. Après les nuages noirs du début de semaine, Valérie Pécresse veut installer une autre image de sa campagne. Alors sous le soleil de Cannes, elle va au contact des Français sur les terrasses et esquive les questions des journalistes.
On ne parle pas de politique politicienne, on parle de mon projet pour la France.
Comment vous avez vécu cette semaine?
Pardon, il y a M. Lisnard qui veut peut-être parler.
Critiqué en particulier pour avoir fait référence à la théorie raciste du supposé grand remplacement, une théorie promue par le candidat d'extrême droite Éric Zemmour, la candidate dénonce des attaques venues du camp d'Emmanuel Macron.
On tourne la page. Moi, ce que je veux, c'est que mon projet se fasse connaître. Et je ne veux pas qu'on le déforme, je ne veux pas qu'on le réduise à une seule de ses parties. On a bien compris qu'Emmanuel Macron voulait un face-à-face uniquement avec les extrêmes. Mais parce qu'il sait que voter Zemmour, voter Le Pen, c'est voter pour lui à la fin. La seule qui peut porter un vrai projet d'alternance crédible, l'ordre, mais aussi l'humanisme, c'est moi.
Mais sur ces terres des Alpes-Maritimes, friandes d'une droite dure, beaucoup de sympathisants LR sont dubitatifs, comme Anne, 69 ans.
Quand elle s'exprime, j'arrive pas à être convaincue. J'ai beaucoup d'amis qui sont de droite et qui disent la même chose. Et il y en a qui se tournent vers Éric Zemmour. Pourquoi pas?
Et la course à la présidentielle s'arrête, elle, pour Florian Philippot. L'ancien bras droit de Marine Le Pen et figure des manifestants anti-pass vaccinal annonce qu'il retire sa candidature. Pourquoi? Eh bien, parce que le président du mouvement Les Patriotes n'a réussi à obtenir qu'un seul parrainage sur les 500 nécessaires. Pas d'appel pour l'heure à soutenir un autre candidat. Retour en Australie à présent et le pays commémore le 80e anniversaire du bombardement de Darwin. Une cérémonie spéciale est prévue dans les territoires du Nord aujourd'hui. On vous rappelle les faits terribles. Le 19 février 1942, une formation d'avions japonais descend sur Darwin lors du premier des deux raids de la Seconde Guerre mondiale. Au moins 235 personnes ont été tuées, plus de 400 blessées, tandis que 30 avions ont été détruits et 11 navires coulés. Des descendants du peuple Larrakia de Darwin assistent à la cérémonie aujourd'hui pour reconnaître comment les peuples autochtones et non autochtones ont travaillé ensemble main dans la main pour faire face à la guerre. Le point de votre météo de ce samedi, Perth du soleil 37 degrés, Adélaïde 26 degrés, Melbourne 24, Hobart et Canberra comptaient 25 degrés, nuageux à Sydney avec 26 degrés, des averses à Brisbane 30 degrés et enfin comptaient 32 degrés à Cairns et 33 à Darwin.
Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, c'est la rétro sonore du samedi. On remonte au 19 février 2008. Fidel Castro démissionne à cause de ses problèmes de santé. Il laisse les rênes de Cuba à son frère Raoul. A tout de suite. C'est l'heure de notre rétro sonore. Nous sommes le 19 février et le 19 février 2008, Fidel Castro, à la tête de Cuba depuis près de 50 ans, quittait le pouvoir. Diminué par la maladie, il se mettait en retrait, confiant les rênes de Cuba à son frère Raoul. Fidel Castro, père de la révolution cubaine, allait mourir 8 ans plus tard, en novembre 2016. Le jour où Fidel Castro a renoncé au pouvoir, 19 février 2008, c'est notre rétro sonore du jour avec les archives de France Télévisions et Radio-Canada.
Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité. La retraite de Fidel Castro, il renonce à la présidence à Cuba après un demi-siècle de pouvoir sans partage. Son frère Raoul devrait lui succéder.
Après un règne de près de 50 ans, Fidel Castro annonce qu'il quitte le pouvoir. À 81 ans, Fidel Castro dit ne plus se sentir assez en forme pour tenir les rênes du pays.
Il est l'un des derniers dirigeants communistes de la planète à Cuba. Une page se tourne, mais les experts restent prudents. La nature politique du régime ne va pas forcément changer dans l'immédiat. Claude Samper.
Une révolution.
Il nous avait habitués à des discours fleuves pouvant durer des heures. La nuit dernière, c'est par un simple communiqué sur Internet que Fidel Castro a annoncé ce retrait. Je n'aspirerai ni n'accepterai, je répète, je n'aspirerai ni n'accepterai la charge de président du Conseil d'État et de commandant en chef. Le leader Maximo s'en va. Depuis son opération le 31 juillet 2006, le numéro 1 cubain avait troqué son célèbre uniforme vert olive pour un survêtement aux couleurs de Cuba. En décembre 2006, la foule l'attend pour son anniversaire. C'est son frère Raoul qui apparaît. Depuis 19 mois, le fauteuil du commandant reste vide à l'Assemblée nationale, avec juste une bouteille d'eau, comme s'il allait revenir. Depuis un an et demi, c'est déjà dans les faits Raoul qui dirige le pays.
Son frère Raoul devrait lui succéder. L'annonce de Fidel Castro a suscité bien des réactions aux États-Unis. Hugues Poulin.
À La Havane, tout semblait calme après l'annonce.
Non, la calle est à l'Almada.
On se demande quand même ce qui va se passer, dit cette Havanaise. Mais pour ce dissident, ça fait des années que Castro aurait dû démissionner.
Que tu pongas tu firmes.
Depuis son hospitalisation en juillet 2006, Fidel Castro n'a fait aucune apparition publique. On a simplement vu à l'occasion des images de lui et de ses visiteurs, comme le dirigeant vénézuélien Hugo Chavez ou encore le président Lula da Silva du Brésil le mois dernier. De son côté, le président américain a souhaité la fin de la dictature. Il faut une transition démocratique et des élections libres à Cuba, a affirmé le président Bush.
Fidel Castro gardera tout de même le titre de premier secrétaire du Parti communiste cubain, le Parti unique. Il laisse derrière lui en tout cas un pays bâillonné et épuisé, même si Cuba a souvent été vanté pour son système scolaire ou médical. Il détient aussi le record de longévité dans le monde pour un dirigeant, Renaud Bernard.
La révolution triomphante. Les armes à la main, Fidel Castro vient de prendre la Havane. Le monde le découvre. Pour tout un peuple, il incarne l'espoir. Devant 1 million de personnes ce jour-là, il annonce la création de tribunaux révolutionnaires, la répression des opposants et des nationalisations. Les businessmen américains qui régnaient sur Cuba sont chassés. La réplique sera immédiate. Washington décrète un embargo et fomente un débarquement. C'est la baie des cochons, un fiasco américain, une victoire pour Fidel Castro. La Havane se rapproche alors de Moscou. Le monde frôle la guerre nucléaire. Octobre 62, Cuba installe des missiles soviétiques à portée de vue des côtes américaines. Kennedy menace, la crise sera désamorcée in extremis. Mais Castro ne perd rien de sa popularité, le parrain soviétique subventionne l'économie, la période est faste. Le système de santé devient un exemple, cité par l'OMS. Castro construit des écoles, sa grande réussite. Selon l'agence de développement de l'ONU, Cuba se hisse au troisième rang des pays les plus alphabétisés. Mais la révolution n'est pas éternelle. L'erreur de Fidel Castro, ne pas avoir pris la mesure de la chute du communisme en 1989. Embrassade trompeuse. Ce jour-là, Mikhail Gorbatchev vient annoncer que Cuba ne vivra plus sous perfusion de Moscou. Les pirouettes du leader avec Diego Maradona ne parviendront pas à masquer la crise, la pénurie et le rationnement. C'est le temps de l'exode massif. Au milieu des années 90, des milliers de déçus de la révolution prennent la mer sur des embarcations de fortune pour tenter le rêve américain.
Avec l'âge, la santé du leader Maximo se détériore. En 2001, il s'évanouit pendant un discours. En octobre 2004, il trébuche après un discours, se fracturant le genou gauche et le bras droit. Le 31 juillet 2006, à deux semaines de son 80e anniversaire, il délègue provisoirement tous ses pouvoirs à son frère Raoul, de 5 ans son cadet. Fidel Castro est opéré plusieurs fois suite à une hémorragie intestinale. Le processus de succession est en place. Début 2008, il démissionne. L'Assemblée nationale élit Raoul Castro au poste suprême. Fidel reste conseiller du gouvernement et il écrit régulièrement ses « réflexions ». Fidel Castro aura exercé le pouvoir absolu sur l'île pendant un demi-siècle. Il aura tenu en échec 10 présidents américains. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Dans la prochaine chronique, on parle avec Marie Chrétien, historienne de l'art et vice-présidente de l'Alliance française de ciné. Marie a créé le Eloquence Art Prize, un concours pour récompenser le meilleur talk de 15 minutes en art. Pour cette première édition, la grande finale aura lieu le 23 février à l'Art Gallery du New South Wales. Que va gagner le grand champion ? Réponse tout de suite sur SBS French. Pour la première fois en Australie est organisé le Eloquence Art Prize, que l'on pourrait traduire par prix d'éloquence en art, si le nom anglais n'avait pas été déposé. C'est une initiative pro bono de Culture Plus, en partenariat avec l'ambassade de France et l'Art Gallery du New South Wales. Nous sommes en ligne avec Marie Chrétien, historienne de l'art, directrice de Culture Plus, vice-présidente de l'Alliance française de Sydney et organisatrice de l'événement. Marie, bonjour.
Bonjour Marianne.
Tout d'abord, Marie, parlez-nous un petit peu de vous et de Culture Plus.
Eh bien, Culture Plus, c'est une compagnie que j'ai créée en 2020, donc tout récemment, et qui organise des événements franco-australiens, des événements culturels, et donc en particulier le prix Eloquence Art Prize.
Et comment vous est venue l'idée de ce nouveau prix ?
Alors, c'est une idée qui m'est venue progressivement sur plusieurs années et c'est un mixte en fait entre mon passé à Sydney Uni où j'ai fait un master d'histoire de l'art et où j'ai même gagné un prix. Et vous savez, Marianne, personne ne m'attendait à la sortie de mon master. C'est aussi venu en fait de mon rôle à l'Alliance française en tant que board director et où en fait à l'Alliance française on a une audience, on a des membres qui sont très avides de talks en histoire de l'art, mais les talks, évidemment ils veulent des talks de qualité et ils veulent des talks non rémunérés, donc c'est un petit peu compliqué. Mmh. Et puis surtout c'est venu d'une très belle rencontre avec l'ambassade de France et en particulier Karine Maurice, l'attachée culturelle, et Boris Touka qui est the head of, ou en français en charge de la culture, de l'éducation et des sciences à l'ambassade de France. Et ils ont été très supportifs dès le départ, très généreux également dans la dotation des prix. Et l'ambassade de France, c'est un nom magique qui ouvre beaucoup de portes.
Alors justement, les prix, on va y revenir un petit peu plus tard parce qu'ils sont extrêmement prestigieux. Mais avant, je voudrais vous demander concrètement quel est l'objectif du Eloquence Art Prize.
Le concept derrière le prix, c'est de récompenser la meilleure talk de 15 minutes en art devant un jury composé de personnalités du monde de l'art australien. Et d'ailleurs, l'édition inaugurale du prix Eloquence va être présidée par Maud Page, qui est la députée directeur de la Art Gallery of New South Wales. Et dans le jury, on va retrouver Barbara Moore, la CEO de la Biennale de Ciné. On va retrouver un présentateur de ABC Radio National, un présentateur du art show de ABC Radio National. L'objectif du prix, en gros, il est quadruple. D'abord et surtout, offrir aux étudiants une opportunité unique d'enrichir leur CV, de développer leur aptitude à parler en public, pas toujours facile, de leur faire rencontrer des professionnels du monde de l'art et bien sûr de se faire apprécier d'eux. Deuxième objectif au niveau du prix, au niveau des universités, c'est renforcer une culture basée sur le mérite et d'offrir encore plus d'opportunités pour leurs étudiants. Troisième objectif, c'est une opportunité pour les professionnels de l'art de découvrir les futurs professionnels justement du monde de l'art en Australie. Et enfin, pour nous spectateurs, la grande finale du prix devrait offrir des talks vraiment super intéressantes avec des étudiants sélectionnés compétitivement parmi quatre des meilleurs université australienne, et je pense que nous allons nous régaler.
Mmh. Ce prix cette année, il a un thème, c'est le thème de Matisse, l'influence de l'œuvre du peintre sur l'art australien. Comment avez-vous choisi ce thème? Pourquoi ce thème?
Le prix, c'est d'abord des talks d'art où l'histoire de l'art peut se mélanger ou non avec de l'art contemporain. Mais c'est des taux qui établissent en fait des ponts culturels entre la France et l'Australie. Et donc cette année, le thème, c'est donc bien sûr lié à l'exposition, ou plutôt bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est lié à l'exposition de Matisse à l'Art Gallery of New South Wales, mais le thème, c'est l'influence de Matisse sur les peintres australiens.
Et pourquoi avoir choisi Matisse? Parce qu'il y a une exposition en ce moment à Sydney, ou est-ce qu'il y a une autre raison?
Ah oui, bonne question. Alors effectivement, moi je trouve que d'abord cette exposition Matisse, elle est extraordinaire, donc j'encourage tout le monde à aller la voir. Et en tant que Française, et en tant que Française aimant l'art, moi je trouve que c'est extraordinaire d'avoir ce genre d'exposition ici en Australie. Et en fait, depuis plusieurs années, à l'Alliance française, je m'attache en fait à chaque fois qu'il y a une exposition de cette envergure, à essayer de la promouvoir et à faire des talks. Alors aussi bien à Sydney, mais aussi j'en ai fait à Canberra ou à Brisbane. Et c'est d'apporter ma petite contribution au développement des expositions, et en particulier l'exposition Matisse. Elle est exceptionnelle.
Un petit peu plus tôt dans l'interview, vous parliez des grandes universités qui allaient participer au concours. Donc justement, comment concrètement s'organise ce prix? La finale a lieu le 23 février à l'Art Gallery du New South Wales. Les épreuves ont donc déjà commencé entre les différents candidats. Qui participe? Quelles universités participent? Et comment concourent les candidats?
Alors d'abord, je voudrais remercier l'Art Gallery of New South Wales qui a très généreusement offert l'auditorium, le Centenary Auditorium, qui nous l'a mis à notre disposition. Et cette année, il y a quatre universités qui participent. Il y a ANU, donc Australian National University à Canberra. Il y a Monash University à Melbourne, et puis il y a l'Université de Sydney et la National Art School, donc dans le New South Wales. Donc, quatre universités sur trois États. La sélection en fait des étudiants, elle s'effectue en trois étapes. Alors, d'abord, ce qui est important de dire, c'est que c'est des étudiants qui sont quasiment qui vont devenir des professionnels de l'art. Donc ils sont au niveau honors, master et même PhD. Et on verra peut-être un petit peu plus tard les prix, mais les prix sont vraiment faits pour eux. Et donc, c'est des étudiants de qualité et ils sont sélectionnés en trois étapes. Donc, la première, c'est une présélection qui s'est déjà effectuée en décembre. La deuxième étape, chaque université élit un champion sur la base de ceux qui ont été présélectionnés, bien sûr. Et dernière étape, la grande finale avec l'élection du champion des champions, donc dans ce lieu magique qui est l'auditorium de la Art Gallery of New South Wales.
Donc, le champion des champions, que va-t-il gagner ? Parlez-nous un petit peu des prix.
Ce qui est important au niveau du prix, c'est d'offrir aux étudiants des opportunités uniques que, en fait, l'argent ne peut pas acheter. Et en particulier pour le champion des champions, il y a en gros deux types de prix. Alors, le premier, c'est un voyage à Paris, sponsorisé par l'ambassade de France pour rencontrer les curateurs du musée Pompidou, mais également le ministère de la Culture ouvrira les portes, j'ai presque envie de dire de n'importe quel, mais disons de presque n'importe quel professionnel du monde de l'art. Et puis à Paris, il y aura également des cours d'histoire de l'art à l'école du Louvre qui seront offerts gratuitement par l'école du Louvre. Deuxième niveau au niveau des prix, mais au moins aussi important, c'est des sessions de coaching avec chaque membre du jury de la grande finale et en particulier donc avec sa présidente, Maud Page, qui est la deputy directeur de l'Art Gallery of New South Wales, mais aussi avec tous les membres du jury qui, alors dedans, il y a Barbara Moore, la CEO de la Biennale de Ciné, ou Daniel Browning, le présentateur de l'Art Show sur ABC Radio National. Alors ça, c'est au niveau du gagnant des gagnants, et puis ou du champion des champions. Et pour chaque champion d'université, il y a en plus une visite privée de l'exposition Matisse, et c'est une visite privée qui va être faite avec la co-curateur de l'exposition Matisse, Jackie Dunn. Et donc, ça va vraiment être très spécial. Il va y avoir également des sessions de coaching avec tous les membres du jury, et puis des cours de français avec les alliances françaises de Sydney, Melbourne et Canberra.
Des très beaux prix. Donc, cette année, c'est la première édition du concours du Eloquence Art Prize. Est-ce que vous pensez déjà à l'année prochaine ?
Tout à fait, Marianne. L'année prochaine, le thème, donc 2023, le thème n'est pas encore complètement fixé, mais ce sera autour de l'environnement, un thème malheureusement actuel aujourd'hui, mais un thème également présent dans la culture aborigène, et puis également un thème qui est présent dans la société de la Belle Époque de la fin du 19e siècle, avec l'Art Nouveau et son pendant, bien sûr, le rejet de la révolution industrielle. Et donc, en 2022, l'idée, c'est d'ouvrir le prix à plus d'étudiants et à plus de disciplines, et pourquoi pas, par exemple, les disciplines scientifiques, et de faire travailler les étudiants en équipe intra-discipline.
Marie, merci beaucoup. Alors, on le rappelle, la grande finale du Eloquence Art Prize aura lieu le 23 février de 5h30 à 9h du soir. C'est à l'Art Gallery du New South Wales à Sydney. Le thème cette année, on l'a dit, est consacré à Matisse, largement inspiré de l'exposition Matisse Life and Spirit, qui est toujours accessible à l'Art Gallery d'ailleurs jusqu'au 13 mars. Merci beaucoup Marie, merci pour votre temps.
Merci Marianne. Un dernier petit mot, cette grande finale est déjà quasiment sold out et donc ce sera une très belle soirée.
Sans aucun doute. À bientôt Marie, au revoir.
Merci Marianne.
Il est 13h41 sur SBS French. Dans un instant, Thomas Feldstein, le directeur de l'Alliance française de Perth, fait le point sur les événements à venir. On marque une très courte pause, à tout de suite.
communauté, vos conversations. SBS French.
Je suis avec Thomas Feldstein, qui est le directeur de l'Alliance française de Perth. Bonjour et bienvenue, Thomas.
Merci.
C'est la première fois qu'on se parle en 2022. Bonne année à vous tous à Perth.
Merci.
Et on va parler justement des rénovations de ce bâtiment de Netlands, pratiquement terminé, j'imagine.
Oui. En effet. Alors, cette semaine marque un vrai achèvement. Donc avec d'abord lundi une satisfaction, j'allais dire presque personnelle, avec enfin la peinture du logo d'Alliance française sur les murs de l'Alliance, un grand logo qui se voit bien de la rue. Satisfaction personnelle, j'avoue, puisque c'est moi qui ai souhaité, c'était pas prévu sur les plans initiaux, c'est moi qui ai souhaité qu'on installe ce grand logo. Donc voilà, ça c'est bien. Et puis voilà, les travaux se terminent, on a enfin un petit peu de verdure autour du parking. Les derniers espaces, les derniers coups de marteau ont été donnés. Donc, on est vraiment sur les toutes dernières petites touches de peinture qui restent à faire, mais pas grand-chose. Il nous reste un petit peu d'aménagement intérieur quand même, quelques meubles qui nous manquent, mais vraiment, on voit la fin de tout ça.
Parlons des cours qui ont repris, j'imagine, avec des nouveautés récemment.
Oui, nous avons repris donc nos activités de cours de français dès la mi-janvier pour les cours de vacances, mais surtout à partir du 31 janvier dernier pour notre premier terme. Donc là, on a une reprise alors que toujours un petit peu perturbée par les questions de Covid, bien entendu. Nous avons dû mettre en place évidemment un protocole sanitaire. Les étudiants doivent venir masquer. Bien sûr, toute personne entrant dans les locaux doit être vaccinée. Et donc, pour les professeurs, il y a un petit peu d'ajustement qui doit se faire. Rassurons, tentons de rassurer, en tout cas, nos étudiants. Mais voilà, donc on a un taux d'inscription qui est stable. Voilà, j'avoue, j'espère une augmentation. Mais pour l'instant, ça reste stable. D'un point de vue des nouveautés, moi, j'essaye tout doucement là, de mettre l'accent sur les cours pour enfants. Donc ça, c'est une dynamique qu'on enclenche tout doucement, faut être honnête. Mais je voudrais accélérer un peu dans l'année. Et puis surtout, à partir du prochain terme, développer nos cours en direction des entreprises, qu'elles soient françaises ou non. Non seulement pour des cours de français, qui peuvent être utiles, logique vraiment très utilitariste, mais aussi, pourquoi pas, des activités plus d'entertainment, de team building, comme on dit, et proposer des activités autour du vin, autour de découvertes de la France, de régions françaises. Donc, une offre envers les entreprises qui va s'étoffer, se diversifier, se multiplier dans l'année.
Et justement, il y a une exposition qui va être inaugurée prochainement. C'est l'exposition de photographie de Christophe Canato, c'est ça?
C'est ça, exactement. Donc, Christophe Canato, qui est un Français installé en Australie depuis 15 ans, je crois, voilà, qui est un artiste assez reconnu déjà, qui est exposé dans plusieurs galeries ici en Western Australia, mais aussi à l'étranger, en France, mais aussi en Chine, en Grande-Bretagne. Et j'ai choisi cet artiste-là pour l'inauguration, en quelque sorte, pour notre première exposition de l'année, première exposition dans ces nouveaux locaux, qui est un artiste un peu pas tout, provocateur, c'est pas tout à fait le terme, mais en tout cas qui interroge, qui a des thématiques qui interroge et qui questionne, notamment sur l'identité masculine, et donc des photographies un peu qui peuvent être considérées comme un peu perturbantes ou en tout cas questionnantes. Ça m'intéresse. Montrer que il y a des artistes français installés ici en Western Australia qui sont à l'avant-garde de l'art contemporain. Qui sont reconnus. Donc, l'exposition sera en effet visible à partir de ce samedi 12 février jusqu'au samedi 5 mars, donc sur les heures d'ouverture de l'Alliance, tout simplement.
On parle du Ciné-Club. Je crois qu'il y a une projection de film prochainement, le 15 février.
Absolument, voilà, là, ça aussi c'est notre nouveauté, notre reprise, parce que je crois que c'est des choses qui existaient il y a plusieurs années déjà. Mais en effet, nous profitons donc de cette salle, d'un grand écran, et puis nous allons commencer donc mardi prochain avec le film qui avait fait l'ouverture du French Film Festival de l'année dernière, La Daronne en français, le Godmother en anglais. Donc une projection gratuite, ouverte à tous, bien sûr à nos étudiants, mais aussi à l'extérieur, donc en français sous-titré en anglais. Et nous lançons donc cette projection de cinéma, donc un film en français, hein, c'est l'intitulé de cette séance, donc une fois par mois. Et l'objectif, c'est d'y ajouter une fois par trimestre, donc effectivement un ciné-club, où là, par contre, on aurait l'intervention d'un spécialiste du cinéma, avec un film, d'abord un film français, enfin d'abord un film en français, peut-être plus tard des films aussi étrangers, pourquoi pas. Mais avec l'idée d'une présentation du film, de quelqu'un qui donnerait quelques clés de lecture et qui permettrait ensuite de lancer après la projection une discussion sur l'interprétation, sur les sentiments des spectateurs à propos du film. Donc un ciné-club à la française, hein, comme on peut en avoir connu dans nos années de jeunesse étudiante peut-être. Et donc ça, j'ai envie de lancer ça. Et je souhaiterais même proposer à d'autres intervenants, donc des spécialistes, soit d'enseignement du cinéma, soit des critiques de films, qui viendraient proposer leur choix de films à regarder et à présenter.
Et on profite de l'occasion pour parler de ce rendez-vous du, je crois, 9 mars chez vous. C'est l'inauguration de l'Alliance française French Film Festival.
Voilà, tout à fait le gros événement, bien entendu le plus gros événement ici à Perth, d'un point de vue du cinéma, le plus gros événement, le plus grand festival de films en Australie, hein, tout simplement. En effet, donc là je réalise depuis plusieurs semaines maintenant à quel point c'est une grosse machine ce festival, mais je réalise aussi à quel point il va proposer une diversité de films, une programmation vraiment éclectique, intéressante, qui va à la fois des choses, on va dire, grand public, des comédies françaises, et des choses un peu plus spécifiques, un peu plus de niche en quelque sorte. Et ouais, moi j'ai vraiment vraiment hâte. On va profiter évidemment des soirées spéciales, que ce soit l'opening, le closing à la fin, mais aussi des soirées. On a une soirée Ladies Night, on a une soirée Taste of France. Donc profiter de ces soirées pour proposer une petite plus-value, que ce soit gastronomique, avec bien sûr du champagne français, du vin français évidemment, mais aussi des animations autour des films qui seront proposés. Donc ça c'est le gros morceau. Et puis on a aussi toute la partie comment scolaire, puisque ouais, les élèves sont aussi bien sûr très 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 importants, très nombreux à venir voir les films grâce à nos relations avec les professeurs de français. Donc ça, si vous vous souvenez, c'est quelque chose que j'avais souhaité relancer quand je suis arrivé en septembre dernier, les contacts avec les professeurs de français, avec l'association des professeurs de français, que nous allons inviter évidemment à une avant-première, que nous allons choyer, si je peux dire, en proposant des kits pédagogiques, en proposant un soutien, une visite, etc. Enfin bref, essayer d'apporter, en plus de simplement la séance elle-même, quelques valeur ajoutée en quelque sorte dans notre relation entre l'Alliance française et les professeurs de français ici en Western Australia.
Et donc les films, d'après ce que je comprends, seront projetés dans plusieurs salles de cinéma chez vous à Perth.
C'est ça. Nous travaillons donc avec Leaderville, le cinéma Luna Leaderville, avec le cinéma Luna Essex à Fremantle, et puis avec le Palace Rain Square qui est en centre-ville. J'oublie le Windsor aussi, qui est du réseau Luna. Petit cinéma à côté, pas très loin de l'Alliance d'ailleurs. C'est le premier endroit, si je peux me permettre, le premier endroit où je suis allé juste en arrivant, où comme Frédéric Antoine, la manager en charge de la culture, m'a emmené. Et alors c'est un cinéma, j'étais très très intéressé. C'est un cinéma un peu à l'ancienne en quelque sorte. Il m'a fait penser à, je sais pas si vous vous souvenez de cette émission, La Dernière Séance, animée par Eddie Mitchell à la télévision française, mais dans les années 80. Et c'était vraiment ça, avec les titres des films, avec les lettres, vous savez, on change à chaque fois. Mais en même temps, voilà, un peu de nostalgie, mais en même temps très très agréable, très sympathique. Donc on fera là-bas une de nos soirées. Et en effet, essayer de travailler plusieurs cinémas, tout simplement, pour proposer différentes salles, différents lieux au public.
Et il y a des coups de cœur, Thomas, dans cette sélection de 2022?
Oui, alors clairement, il y a coup de cœur. D'abord, le film qui va faire l'opening, Lost Illusions, de Xavier Giannelli, qui est donc l'adaptation du roman de Balzac, qui est une belle adaptation, avec des clins d'œil. Pour mémoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas lu le livre, donc c'est la thématique du journalisme, hein, d'un jeune homme de province qui monte à Paris, qui se heurte, on va dire, au parisianisme de l'époque, hein, donc on est au milieu du 19e siècle, c'est un film en costume, tourné dans des décors naturels pour plusieurs rues de Paris, donc c'est superbe. Et donc, une thématique qui rejoint quelques thèmes actuels. Donc il y a quelques clins d'œil comme ça qu'il faut repérer, qu'on peut repérer dans le film, qui font penser aujourd'hui, au traitement médiatique d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un beau film. Et donc il sera projeté donc en avant-première australienne, le donc à Perth, le mercredi 9 mars. Ensuite, il y a un film que moi j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle La Traviata, mes frères et moi. Qui est un film donc centré autour d'un enfant et d'une situation familiale un peu compliquée dans le sud de la France à Sète exactement et qui découvre le chant lyrique. Voilà, et c'est un beau film avec des seconds rôles qui sont vraiment extraordinaires, des grands frères notamment de ce jeune garçon qui sont vraiment qui jouent très très bien, c'est très juste, c'est vraiment un beau film. Il y a un autre coup de cœur qui sera un film de school screening, des séances scolaires, qui est La Panthère des Neiges. C'est un film absolument magnifique. Alors que j'ai vu personnellement juste sur un écran de télévision, mais que je vais me dépêcher de retourner voir sur le grand écran. Des paysages superbes de l'ouest de la Chine et de la région du Tibet. Un commentaire, parfait, enfin, qui laisse le temps. C'est un film, on parle de slow food parfois. Là, c'est un slow movie, si on peut dire. C'est vraiment, vraiment super. Voilà, vraiment, je pensais que c'est familial, hein, bien entendu. Il y a quelques gros mots au début du film, mais bon, ça passe, franchement. Vraiment, c'est un superbe, superbe film. Voilà, et puis ensuite il y a vraiment de tout, je disais tout à l'heure, hein, des comédies familiales, des films un peu plus difficiles sur des thématiques un peu lourdes, hein, la fin de vie, le cancer, mais qui sont voilà quand même des beaux films avec des acteurs, enfin je pense à Catherine Deneuve, à Benoît Magimel par exemple. Il y a des grands films avec Gilles Lelouch, Goliath, qui met en question le travail des avocats, le travail journalistique également. L'adaptation du livre de Florence Aubenas, la journaliste, Mistreham, donc avec Juliette Binoche. Donc on a des films avec des grandes stars françaises, hein, parce qu'on sait que le public australien aime bien les stars françaises. Et puis on a des films un peu plus confidentiels, on va dire, mais qui j'espère vont trouver leur public.
Et vous avez des invités qui viennent de l'étranger ou c'est encore un secret?
Malheureusement, avec
les restrictions.
Alors, d'abord, les restrictions nous empêchent de faire venir des acteurs, des réalisateurs français. Il y a néanmoins, on va dire, des ambassadeurs, des soutiens australiens à ce French Film Festival. Et puis nous, ici, en Western Australia, les restrictions sont encore assez strictes, assez fortes. Hein. L'entrée sur le territoire est encore très, très limitée. La quarantaine encore en place, hein, même si elle était diminuée, elle est passée à 7 jours. Néanmoins, elle est toujours présente. Donc, malheureusement, on n'aura pas de grandes vedettes encore cette année, mais tous les directeurs d'alliance comme d'Australie et toute l'équipe autour de la préparation du French Film Festival et tout le monde est d'accord pour dire que 2023, comme on verra le retour de stars françaises, que ce soit réalisateurs, réalisatrices ou acteurs ou actrices, parce qu'on sait aussi que le public australien attend de retrouver des grandes stars françaises pour les rencontrer.
Et donc, j'imagine que les gens peuvent déjà réserver sur le site de l'Alliance française de Perth.
Bien entendu, sur le site de l'Alliance. Il y a un site dédié, hein, AFFF, pour l'Alliance française de French Film Festival, qui permet effectivement ensuite de choisir la ville, de choisir les cinémas, avec en plus une application cette année qui permet d'indiquer plusieurs possibilités, en fait, plusieurs critères, soit le type de film qu'on préfère et donc il y a une proposition qui est faite, soit en fonction de l'emploi du temps, et de dire voilà, moi je suis libre tel jour et tel jour, qu'est-ce que vous me proposez à voir. Bref, donc là, une petite amélioration sur l'application, enfin sur le, la possibilité de réservation. Bien sûr, en partenariat avec, avec Palace, avec, avec Luna, sur, sur ce gros, gros projet qu'est le festival.
Thomas Felstein, merci d'être intervenu sur les ondes de SBS French et bon festival du cinéma français.
Merci à vous, merci beaucoup, Jean-Noël.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Voilà pour le French Film Festival de Perth. Alors, je rebondis sur ce qu'on vient d'entendre sur les frontières lors de l'interview. Et je vous rappelle qu'à compter du 3 mars, le Western Australia rouvre ses frontières sans quarantaine pour les personnes ayant reçu 3 doses de vaccin. Il est 13h57, c'est l'heure du rappel des titres. Pas de désescalade dans le dossier ukraino-russe, Joe Biden se dit convaincu d'une invasion imminente. Bamako et Paris à couteau tiré, Emmanuel Macron veut mettre un terme à l'opération Barkhane sous 6 mois. Le gouvernement malien dénonce une violation de leurs accords et lui demande de retirer ses troupes immédiatement. Et enfin, les territoires du Nord qui commémorent le bombardement de Darwin, c'était il y a 80 ans. C'est la fin de cette édition française. Je suis Marianne Murat, j'ai été très heureuse de vous accompagner pendant une heure. Merci de votre fidélité. Votre prochain journal, c'est demain avec Jean-Noël Ducasse. Passez une excellente journée.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.